Chapitre 38 Traité de paix entre l'Asie et la maison Nucingen.
Comme Montam dit Nucingen a de l'esprit,
se dit le baron quand sa femme l'eut laissé seul. Mais plus le banquier admira la finesse du conseil que la baronne venait de lui donner, moins il devina la manière de s'en servir. Et non seulement il se trouvait stupide, mais encore il se le disait à lui-même. La stupidité de l'homme d'argent, quoique devenue quasi proverbiale, n'est cependant que relative. Il en est des facultés de notre esprit comme des aptitudes de notre corps. Le danseur a sa force aux pieds, le forgeron a la sienne dans les bras, le fort de la halle s'exerce à porter des fardeaux, le chanteur travaille son larynx, et le pianiste se sémente le poignet. Un banquier s'habitue à combiner les affaires, à les étudier, à faire mouvoir les intérêts, comme un vaudevilliste se dresse à combiner des situations, à étudier des sujets, à faire mouvoir des personnages. On ne doit pas plus demander au baron de Nucingen l'esprit de conversation qu'on ne doit exiger les images du poète dans l'entendement du mathématicien. Combien se rencontre-t-il par époque de poètes qui soient ou prosateurs ou spirituels dans le commerce de la vie, à la manière de Madame Cornuel? Buffon était lourd, Newton n'a pas aimé, Lord Byron n'a guère aimé que lui-même. Rousseau fut sombre et quasi fou, La Fontaine était distrait. Également distribuée, la force humaine produit les sots ou la médiocrité partout. Inégale, elle engendre ces disparates auxquels on donne le nom de génie et qui, si elles étaient visibles, paraîtraient des difformités. La même loi régit le corps. Une beauté parfaite est presque toujours accompagnée de froideur ou de sottise. Que Pascal soit à la fois un grand géomètre et un grand écrivain, que Beaumarchais soit un grand homme d'affaires, que Zamet soit un profond courtisan, ces rares exceptions confirment le principe de la spécialité des intelligences. Dans la sphère des calculs spéculatifs, le banquier déploie donc autant d'esprit, d'adresse, de finesse, de qualité, qu'un habile diplomate dans celle des intérêts nationaux. Sorti de son cabinet, s'il était remarquable, un banquier serait alors un grand homme. Nucingen, multiplié par le prince de Ligne, par Mazarin ou par Diderot, est une formule humaine presque impossible, et qui, cependant, s'est appelé Périclès, Aristote, Voltaire et Napoléon. Le rayonnement du soleil impérial ne doit pas faire tort à l'homme privé. L'empereur avait du charme, il était instruit et spirituel. Monsieur de Nucingen, purement banquier, sans aucune invention hors de ses calculs, comme la plupart des banquiers, ne croyait qu'aux valeurs certaines. En fait d'art, il avait le bon sens de recourir, l'or à la main, aux experts en toutes choses, prenant le meilleur architecte, le meilleur chirurgien, le plus fort connaisseur en tableaux, en statues, le plus habile avoué, dès qu'il s'agissait de bâtir une maison, de surveiller sa santé, d'une acquisition de curiosité ou d'une terre. Mais, comme il n'existe pas d'experts jurés pour les intrigues, ni de connaisseurs en passion, un banquier est très malmené quand il aime et très embarrassé dans le manège de la femme. Nucingen n'inventa donc rien de mieux que ce qu'il avait déjà fait, donner de l'argent à un frontin quelconque, mâle ou femelle, pour agir et pour penser à sa place. Madame Saint-Estève pouvait seule exploiter le moyen trouvé par la baronne. Le banquier regretta bien amèrement de s'être brouillé avec l'odieuse marchande à la toilette. Néanmoins, confiant dans le magnétisme de sa caisse et dans les calmants signés Gara, il sonna son valet de chambre et lui dit de s'enquérir, rue Neuve-Saint-Marc, de cette horrible veuve, en la priant de venir. À Paris, les extrêmes se rencontrent par les passions. le vice y soude perpétuellement le riche au pauvre, le grand au petit. L'impératrice y consulte Mademoiselle Lenormand. Enfin, le grand seigneur y trouve toujours un ramponneau de siècle en siècle. Le nouveau valet de chambre revint 2 heures après. « Monsieur le baron, dit-il, Madame Saint-Estève est ruinée. »«
Ah, tant mieux !» dit le baron joyeusement. « Je la tiens !»
La brave femme est, à ce qu'il paraît, un peu joueuse, reprit le valet. De plus, elle se trouve sous la domination d'un petit comédien des théâtres de la banlieue, que par décence elle fait passer pour son filleul. Il paraît qu'elle est excellente cuisinière. Elle cherche une place.
Ces diables des chenilles subalternes ont tous 10 manières de gagner de l'argent et 12 manières de le dépenser.
Se dit le baron, sans se douter qu'il se rencontrait avec Panurge. Il renvoya son domestique à la recherche de Madame Saint-Estève, qui ne vint que le lendemain. Questionné par Asie, le nouveau valet de chambre apprit à cet espion femelle les terribles résultats des lettres écrites par la maîtresse de Monsieur le baron. « Monsieur doit bien aimer cette femme-là, » dit, en terminant, le valet de chambre. « Car il a failli mourir. Moi, je lui donnais le conseil de n'y pas retourner. Il se verrait bientôt cajolé. Une femme qui coûte à Monsieur le baron déjà 500 000 francs, dit-on, sans compter ce qu'il vient de dépenser dans le petit hôtel de la rue Saint-Georges. Mais cette femme-là veut de l'argent, rien que de l'argent. » En sortant de chez monsieur, Madame la baronne disait en riant, « Si cela continue, cette fille-là me rendra veuve. » « Diable, répondit Asie, il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. » « Monsieur le baron n'espère plus qu'en vous, » dit le valet de chambre. « Ah, c'est que je me connais à faire marcher les femmes. » « Allons, entrez, » dit le valet de chambre en s'humiliant devant cette puissance occulte. « Eh bien, » dit la fausse Saint-Estève, en entrant d'un air humble chez le malade, « Monsieur le baron éprouve donc de petites contrariétés ? Que voulez-vous ? Tout le monde est atteint par son faible. Moi aussi, j'ai vécu des malheurs. En 2 mois, la roue de la fortune a drôlement tourné pour moi. Me voilà cherchant une place. Nous n'avons été raisonnables ni l'un ni l'autre. Si monsieur le baron voulait me placer en qualité de cuisinière chez madame Esther, il aurait en moi la plus dévouée des dévouées, et je lui serais bien utile pour surveiller Eugénie et madame.
Il ne s'agit point de cela, dit le baron. Je ne puis parvenir à être le maître, et je suis mené comme
une toupie, reprit Asie. Vous avez fait aller les autres, papa. La petite vous tient, et vous polissonne. Le ciel est juste.
Juste, reprit le baron. Je ne t'ai pas fait venir pour entendre de la morale.
Bah, mon fils, un peu de morale ne gâte rien. C'est le sel de la vie pour nous autres, comme le vice pour les dévots. « Voyons, avez-vous été généreux ? Vous avez payé ces dettes ?»«
Oui, »
dit piteusement le baron. « C'est bien. Vous avez dégagé ces effets, c'est mieux, mais convenez-en, ce n'est pas assez. Ça ne lui donne encore rien à rire, et ces créatures aiment à flamber. »«
Je lui prépare une surprise, rue Saint-Georges, elle le sait, » dit le baron. « Mais je ne veux pas être un chopard. »«
Eh bien, quittez-la. »«
J'ai peur qu'elle ne me laisse aller, » s'écria le baron.
« Et nous en voulons pour notre argent, mon fils, » répondit Asie. « Écoutez, nous en avons carotté de ces millions au public, mon petit. On dit que vous en possédez 25. » Le baron ne put s'empêcher de sourire. « Eh bien, il faut en lâcher un. »
« Je le lâcherai bien, » dit le baron. « Mais je ne l'aurai pas plutôt lâché qu'on en demandera une seconde. »«
Oui, je comprends, » répondit Asie. « Vous ne voulez pas dire B de peur d'aller jusqu'aux Z. Esther est honnête fille, cependant. »«
Très honnête fille, » s'écria le banquier. « Elle veut bien s'exécuter. Mais comment s'acquitte telle dette ?»«
Enfin, elle ne veut pas être votre maîtresse. Elle a de la répugnance. »
et je le conçois, l'enfant a toujours obéi à ses fantaisies. Et quand on n'a connu que de charmants jeunes gens, on se soucie peu d'un vieillard. Vous n'êtes pas beau, vous êtes gros comme Louis XVIII et un peu bêta, comme tous ceux qui cajolent la fortune, au lieu de s'occuper des femmes. Eh bien, si vous ne regardez pas à 600 000 francs, dit Asie, je me charge de la faire devenir pour vous tout ce que vous voudrez qu'elle soit.
600 000 francs !
S'écria le baron en faisant un léger sursaut. Esther me coûte 1 000 000 déjà.
Le bonheur vaut bien 1 600 000 francs, mon gros corrompu.
Vous connaissez des hommes dans ce temps-ci qui certainement ont mangé plus d'un et de 2 000 000 avec leur maîtresse. Je connais même des femmes qui ont coûté la vie et pour qui l'on a craché sa tête dans un panier. Vous savez ce médecin qui a empoisonné son ami? Il voulait la fortune pour faire le bonheur d'une femme.
Oui, je le sais. Mais si je suis amoureuse, je ne suis pas bête. Ici, du moins, car quand je la vois, je lui tonnerai mon portefeuille.
Écoutez, monsieur le baron, dit Asie en prenant une pause de Sémiramis. Vous avez été assez rincé comme ça. Aussi vrai que je me nomme Saint-Estève dans le commerce 100 ans, je prends votre parti.
Bien, je te récompenserai.
Je le crois, car je vous ai montré que je savais me venger. D'ailleurs, sachez-le, papa, dit-elle en lui jetant un regard effroyable, j'ai les moyens de vous souffler, Madame Esther, comme on mouche une chandelle. Et je connais ma femme. Quand la petite gueuse vous aura donné le bonheur, elle vous sera plus nécessaire encore qu'elle ne voulait en ce moment. Vous m'avez bien payé, vous vous êtes fait tirer l'oreille, mais enfin, vous avez financé. Moi, j'ai rempli mes engagements, pas vrai? Eh bien, tenez, je vais vous proposer un marché. Voyons. Vous me placez cuisinière chez madame. Vous me prenez pour 10 ans, j'ai 1 000 francs de gage, vous payez les 5 dernières années d'avance, un dernier adieu, quoi. Une fois chez madame, je saurai la déterminer aux concessions suivantes. Par exemple, vous lui ferez arriver une toilette délicieuse de chez madame Auguste, qui connaît les goûts et les façons de madame, et vous donnez des ordres pour que le nouvel équipage soit à la porte à 4 heures. Après la bourse, vous montez chez elle et vous allez faire une petite promenade au bois de Boulogne. Eh bien, cette femme dit ainsi qu'elle est votre maîtresse, elle s'engage au vu et au su de tout Paris. 100 000 francs, vous dînerez avec elle, je sais faire de ces dîners-là. Vous la menez au spectacle, aux variétés, à l'avant-scène, et tout Paris dit alors « Voilà ce gros cochon de Nucingen avec sa maîtresse ». C'est flatteur. Tous ces avantages-là, je suis bonne femme, sont compris dans les premiers 100 000 francs. En 8 jours, en vous conduisant ainsi, vous aurez fait bien du chemin.
J'aurai payé 100 000 francs.
Dans la seconde semaine, reprit Asie, qui n'eut pas l'air d'avoir entendu cette piteuse phrase, madame se décidera, poussée par ses préliminaires, à quitter son petit appartement et à s'installer dans l'hôtel que vous lui offrez. Votre Esther a revu le monde, elle a retrouvé ses anciennes amies, elle voudra briller, elle fera les honneurs de son palais. C'est dans l'ordre. Encore 100 000 francs. Dame, vous êtes chez vous, Esther est compromise, elle est à vous. Reste une bagatelle dont vous faites le principal. « Vieux éléphant, ouvre-t-il des yeux, ce gros monstre-là »« Eh bien, je m'en charge. 400 000. »« Ah, pour ça, mon gros, tu ne les lâches que le lendemain. »« Est-ce de la probité ?»« J'ai plus de confiance en toi que tu n'en as en moi. »« Si je décide, madame, à se montrer comme votre maîtresse, à se compromettre, à prendre tout ce que vous lui offrirez, et peut-être aujourd'hui, vous me croirez bien capable » de l'amener à vous livrer le passage du Grand Saint-Bernard. Et c'est difficile, allez. Il y a là, pour faire passer votre artillerie, autant de tirages que pour le premier consul dans les Alpes.
Et Birquoi ?
Elle a le cœur plein d'amour, rasibus, comme vous dites, vous autres qui savez le latin, reprit Asie. Elle se croit une reine de Saba parce qu'elle s'est lavée dans les sacrifices qu'elle a faits à son amant.
une idée que ces femmes-là se fourrent dans la tête. Ah, mon petit, il faut être juste, c'est beau. Cette farceuse-là mourrait de chagrin de vous appartenir. Je n'en serais pas étonné. Mais ce qui me rassure, moi, je vous le dis pour vous donner du cœur. Il y a chez elle un bon fond de fille.
Tia,
dit le baron qui écoutait Asie dans un profond silence et avec admiration,
le chenil de la corruption, comme j'ai le chic de la banque.
Est-ce dit, mon bichon ? Reprit Asie.
Va bire 50 000 francs au lire de 100 000, et je t'honorerai 500 000 le lendemain de mon triomphe.
Eh bien, je vais aller travailler, répondit Asie. Ah, vous pouvez venir, reprit Asie avec respect. Monsieur trouvera madame déjà douce comme un dos de chatte et peut-être disposée à lui être agréable.
Fa, fa, ma ponne,
dit le banquier en se frottant les mains. Et, après avoir souri à cette affreuse mulâtresse, il se dit
« Comme on a raison d'avoir beaucoup d'argent !»
Il sauta hors de son lit, alla dans ses bureaux et reprit le maniement de ses immenses affaires, le cœur gai.